Un journal présenté ce soir par Annabelle Grelier. Bonne année.
Bonne année Emmanuel, bonne année, bonsoir à toutes et à tous. On commence l'année comme on l'avait terminée. Le couvre-feu sera même avancé à 18h pour une quinzaine de départements. Un couvre-feu renforcé par crainte d'une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid-19. Après un démarrage lent de la campagne de vaccination en France, le gouvernement dit vouloir passer à la vitesse supérieure, poussé sans doute par les critiques qui fusent depuis dimanche dernier. Quelques 200 vaccinés en France contre plusieurs milliers en Allemagne ou en Italie. Une immense rave partie dans un hameau breton d'Ille-et-Vilaine donne bien du mal ce soir encore aux forces de l'ordre. 2500 fêtards refusent toujours de partir. Une cellule de crise a été mise en place par la préfecture. 2020 aurait été la pire année pour les ventes de voitures, une chute de 25%. En revanche, 2020 aura été l'année de tous les records pour le streaming. On compte désormais plus de 500 millions d'abonnés dans le monde aux plateformes de vidéos en ligne. La Chine, longtemps poubelle du monde, n'importera plus de déchets. Le principal pays importateur de déchets au monde qui définitivement le marché ce 1er janvier 2021. Bon, on aura connu mieux comme réveillon. Sans faire la fête, on a déjà la gueule de bois. Le porte-parole Gabriel Attal a annoncé donc tout à l'heure les toutes premières mesures prises par le gouvernement en 2021. Elles ne sont pas bonnes pour la culture, dont les établissements ne rouvriront pas le 7 janvier. Et face à la menace d'une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid-19, un couvre-feu est renforcé dans 15 départements. Les explications avec vous, Antoine Marette.
Dans ces 15 départements, le virus reste particulièrement actif. Ils sont tous situés dans la moitié est du pays, la plupart au nord-est et deux au sud-est. Dans ces 15 départements, à partir de demain, le couvre-feu sera avancé de 2 heures. Il commencera donc à 18 heures. Voici comment le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, justifie cette décision.
Quand vous mettez en place un couvre-feu, vous limitez les interactions sociales qu'on peut avoir dans un cercle privé. Et on sait que c'est par là que le virus se diffuse le plus. Et donc en avançant à 18h, par définition, vous limitez encore plus ces rencontres. On a un exemple en France, comparaison n'est pas raison parce que les territoires sont très différents et ont leurs spécificités, mais c'est le territoire de la Guyane. On avait mis un couvre-feu en place en soirée, il a été avancé ensuite dans l'après-midi et on a vu très vite des effets.
Le gouvernement se donne une semaine pour réévaluer la situation. En cas de dégradation dans certains territoires, de nouvelles mesures seront prises et des reconfinements ne sont pas à exclure.
Après un démarrage lent de la campagne de vaccination en France, le gouvernement passe à la vitesse supérieure, poussé sans doute par les critiques qui fusent depuis dimanche dernier. Quelques 200 vaccinés en France contre plusieurs milliers en Allemagne ou en Italie. Pour aller plus vite, à partir de lundi, les soignants de plus de 50 ans pourront recevoir les injections. Promesse d'Olivier Véran hier sur Twitter. Le ministre de la Santé assure aussi que d'ici un mois, des centres de vaccination de ville ouvriront pour vacciner les plus de 75 ans, qui ne vivent pas dans les EHPAD. Il s'agit d'un changement de stratégie qui n'en porte pas le nom. Une accélération pour pouvoir atteindre l'objectif fixé de 15 millions de vaccinés d'ici cet été. Mais est-on réellement capable de vacciner à tour de bras? Pour Axel Kahn, généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer, cette campagne massive semble à moitié réalisable.
Il y a d'une part la logistique, si on a assez de doses. La réponse est oui, c'est réalisable. D'abord, on l'a déjà fait en 2009 pour H1N1. Et donc, c'est possible avec des grands centres de vaccination. Je sais bien qu'Israël est un plus petit pays, mais Israël a déjà vacciné le tiers, je crois, de sa population, peut-être pas très loin de la moitié. Les États-Unis sont à plusieurs millions de personnes vaccinées. Et donc, oui, cela est possible. Et il serait possible, si on avait assez de doses de vaccins, de vacciner toute la population qui désire se faire vacciner d'ici juin. Malheureusement, on n'aura pas assez de doses de vaccins et cet objectif peut-être ne pourra être atteint que, on va dire, au mois de septembre ou à la fin de l'année. Mais bon, si on a protégé toutes les personnes les plus fragiles réellement, alors néanmoins on pourra petit à petit sortir de la situation qui est faite de ces accalmies, de ces reprises épidémiques. Et ces reprises épidémiques ne sont pas moins graves que les précédentes. La prochaine, peut-être, on le voit là encore en Grande-Bretagne, pourrait être plus grave.
Axel Kahn, qui était notre invité de la rédaction de France Culture à 12h30, et il est à réécouter sur franceculture.fr. Alors que dans les autres pays européens, la campagne de vaccination est déjà bien lancée, eh bien en Grande-Bretagne, la possibilité de faire la deuxième injection plus tard que prévu, dans 3 mois plutôt que 3 semaines, est déjà évoquée. Tara Schlegel.
Se passer d'une deuxième injection ou la retarder de plusieurs semaines est un véritable pari. On comprend bien les bénéfices que les Britanniques espèrent en tirer en vaccinant rapidement le double de personnes prévues initialement. Ils espèrent endiguer une vague qui en ce moment infecte plus de 50 000 personnes toutes les 24 heures, environ 20 fois plus que début septembre. Mais c'est un pari risqué car les laboratoires n'ont pas mené leurs essais cliniques en se limitant à une seule injection. Tous ont un schéma vaccinal basé sur un rappel pour booster les défenses immunitaires. Dans le cas de Pfizer-BioNTech, les données du laboratoire analysées en France, par exemple par le site du Vidal, rappellent que l'efficacité est de 95% et qu'elle est calculée sur 7 jours après la deuxième dose. Autrement dit, sur les 18 000 volontaires qui avaient reçu le vaccin, 8 sont tombés malades la semaine suivant la deuxième injection quand 162 ont contracté le Covid parmi les 18 000 volontaires du groupe qui n'avait reçu qu'un placebo. Le Pfizer est donc particulièrement efficace à 95%. Certes, les données du laboratoire montrent aussi que avant la deuxième piqûre, le taux de protection est déjà de 52,4%, au-dessus de la norme fixée initialement par l'OMS pour accepter tout vaccin anti-Covid. Mais cela reste infiniment plus faible qu'une protection en 2 doses. Par conséquent, en France, la Haute Autorité de Santé, dont 2 experts sont interrogés ce soir par Le Monde, ne modifiera pas, pour l'instant du moins, ses recommandations vaccinales. La vérité, c'est surtout qu'on ne sait pas encore pendant combien de temps les individus sont protégés par ces vaccins à ARN. Les essais ont été conduits entre avril et novembre et le recul manque donc terriblement. Or, si l'on repousse la deuxième dose à 3 mois après la première injection, comme le veulent les Anglais, on ne sait pas si la protection durera jusque-là, ni même si dans 3 mois, les laboratoires seront capables de fournir au bon moment autant de vaccins que nécessaire.
Et aux États-Unis, la nouvelle année n'y changera rien. La pandémie de coronavirus fait plus de ravages que jamais. Plus de 3500 morts quotidiennement ces derniers jours, 350 000 au total. Le pays a également dépassé les 20 millions de contaminations. Et si l'arrivée de plusieurs vaccins contre le Covid-19 suscite l'espoir quant à un retour à la normale dans les prochains mois, force est de constater que les objectifs fixés par les autorités fédérales sont très loin d'avoir été atteints. À New York, la correspondance de Loïc Loury.
20 millions d'inoculations avant le 31 décembre, c'est la barre qui avait été fixée par les autorités. Le compte aujourd'hui n'y est pas du tout avec moins de 3 millions de personnes vaccinées. À cela, plusieurs raisons. Et d'abord, le sous-financement des services de soins, car si le gouvernement fédéral a dépensé sans compter pour la recherche d'un vaccin, puis sa distribution, c'est désormais à chaque État de prendre le relais. Or, la plupart n'a pas les moyens, d'autant moins en période de crise, pour embaucher du personnel, payer des heures supplémentaires ou ouvrir des sites de vaccination. Mais ce n'est pas tout. Il faut y ajouter des hôpitaux déjà débordés par le rebond épidémique et l'absence de consignes logistiques claires, alors que cette première phase vaccinale devrait être la plus facile à mettre en œuvre avec des candidats bien identifiés. En Floride, notamment, un comté a cru bon de baser sa campagne sur la règle du premier arrivé, premier servi pour les plus de 65 ans. Résultat, des centaines de personnes forcées de camper dans le froid pendant des heures. Enfin, il faut déjà composer avec les réticents. 2 Américains sur 10 assurent qu'ils passeront leur tour, quoi qu'il arrive. Dans l'État conservateur de l'Ohio, le gouverneur affirme ainsi que 60% des employés de maisons de retraite ont déjà refusé de se faire vacciner.
Reconfinement et interdiction de faire la fête, forcément c'est bien plus difficile pour les jeunes. Les forces de l'ordre ont dû intervenir sur 10 de fêtes clandestines cette nuit. La plus importante s'est déroulée en Ille-et-Vilaine, à Lieuron. Une rave party d'ailleurs qui est toujours en cours. 2500 personnes sont rassemblées depuis hier soir, ce qui a donné lieu à des échauffourées. On retrouve sur place Léo Rosé de France Bleu Armorique.
La musique résonne sous le hangar principal où plusieurs centaines de personnes dansent devant les enceintes. Clara est venue de Vendée avec des copains pour fêter le nouvel an.
Très très bien, ça s'est très bien déroulé. Enfin, au début, bon, un petit peu galère avec les CRS et tout ça. Mais sinon, au final, ça s'est très bien déroulé. Là, on est encore là jusqu'à demain.
La carcasse de la voiture de gendarmerie incendiée hier soir gît sur la route d'accès à cette zone d'activité, bordée de quelques maisons. Yvonique, un riverain, se promène avec son fils à vélo.
Non, pour nous, pas de soucis. Ça ne dérange pas, au contraire, c'est des gens qui sont respectueux dans l'ensemble. Peut-être eu un petit débordement, mais bon, après, nous... pour rien, quoi.
Presque aucun teufeur ne porte de masque. La protection civile a commencé à en distribuer plusieurs milliers ainsi que du gel hydroalcoolique. Les forces de l'ordre quadrillent le secteur pour bloquer d'autres arrivées de fêtards. Un hélicoptère de la gendarmerie a survolé plusieurs fois la zone. Pas d'évacuation prévue pour l'instant. Et les teufeurs comptent rester jusqu'à demain au moins.
Une nuit du Nouvel An qui a été globalement calme à travers la France, selon le ministère de l'Intérieur, qui avait mobilisé 100 000 policiers et gendarmes pour ce réveillon sous couvre-feu. Il déplore toutefois la mort d'un jeune homme décapité par un feu d'artifice en Alsace, où une soixantaine de voitures ont été brûlées, bien moins, cela dit, que les années précédentes. L'agglomération bordelaise aura connu plusieurs incidents également, bureaux de poste et abribus brûlés. Ce n'est pas vraiment une surprise et c'est une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire et du confinement. Le marché automobile s'est effondré en 2020, accusant une baisse de 25% des immatriculations de voitures neuves. 1 600 000 contre 2 200 000 l'an dernier, on retombe au niveau de 1975. Cela dit, d'après le comité des constructeurs français d'automobiles, la chute aurait pu être pire, mais a été atténuée par un relativement bon mois de décembre avec un léger rattrapage. Et des commandes qui augurent un début d'année satisfaisant en volume. La situation est toutefois incertaine pour se projeter sur 2021, explique François Roudier. Il est le porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles.
On est en fait dans un moment où il est difficile pour nous de faire des prévisions. Tout simplement parce qu'il y a des éléments macroéconomiques qui nous échappent. Le premier, c'est la crise sanitaire. Est-ce que la vaccination va être conduite rapidement, ce qui permet de calmer le jeu et de pas avoir de troisième reconfinement. S'il y a un troisième reconfinement, ce serait un véritable problème. Le deuxième point, c'est le moral des ménages et le moral des entreprises. Les ménages vont garder leur épargne de précaution. Tous les économistes nous l'indiquent. Ils vont pas du tout aller dans une ambiance année folle et dépenser à outrance. Et les entreprises sont quand même sur des niveaux de trésorerie extrêmement serrés, si ce n'est des faillites pour certaines. Donc, ces deux éléments macroéconomiques nous inquiètent quand même un peu pour le futur. Le besoin automobile, il est là. Il s'est même renforcé d'ailleurs avec la crise sanitaire, on l'a vu. C'est la victoire du transport individuel, que ce soit les vélos ou les automobiles, sur le transport collectif. Donc on sait très bien qu'on a de plus en plus des achats d'automobiles pour éviter les transports collectifs. Donc on a quelques bons indicateurs, mais les problèmes macroéconomiques peuvent vraiment entacher cette année.
François Roudier au micro de Bénédicte Robin. En revanche, 2020 a été l'année de la consécration pour le streaming et 2021 s'annonce encore sous les meilleurs auspices pour les plateformes de vidéos à la demande sur abonnement qui bénéficient à plein de la fermeture des salles de cinéma. Le nombre d'abonnés à Netflix, Disney et autres Amazon Prime a bondi depuis le premier confinement dû à la pandémie. On compte désormais plus de 500 millions d'abonnés dans le monde à au moins une de ces plateformes. Un nouvel usage qui bouleverse nos habitudes et tout un secteur économique, Maxime Tellier.
Plus de 5 millions de Français utilisent quotidiennement un service de vidéo à la demande désormais, d'après le Centre National du Cinéma. Et dans ce domaine, la crise sanitaire a accéléré la tendance. Capucine Cousin est journaliste économique. Elle a écrit « Netflix et compagnie, les dessous d'une révolution » chez Armand Collin.
C'était voué à se faire très lentement. On pensait que ça se ferait d'abord chez les early adopters, chez les ados, après chez les parents des ados, mais que ça se ferait vraiment progressivement. Avec cette année qui a été en tout point extraordinaire, hors du commun, ça a servi aux plateformes de streaming de s'installer dans les usages aussi parce que dans un sens, les gens n'avaient pas le choix. Comme ils étaient cloîtrés chez eux, c'était le seul mode d'évasion dans tout ce qui est audiovisuel.
Et conséquence, Netflix a franchi la barre des 200 millions d'abonnés mondiaux cette année, 30 millions de plus qu'il y a un an. Dans le même temps, Disney Plus est passé de 0 à 87 millions d'abonnés, un chiffre que la major ne pensait pas atteindre avant 2024. Et comme les salles de cinéma restent fermées, un autre bouleversement est en cours, la sortie en vidéo sans passer par les salles obscures. Ce sera le cas pour Raya et les dragons chez Disney et pour tous les films de la Warner prévu en 2021, une situation totalement inédite qui bouscule la place éminente du cinéma.
Et c'est vrai que les gens commencent à s'habituer, commencent à trouver des alternatives aux salles de cinéma pour regarder des films. Il y a quand même ces nouveaux usages qui s'installent. Alors, est-ce que les salles de cinéma sont menacées? Je ne sais pas. Tout dépend de quand ces salles rouvriront.
La chronologie des médias est donc mise en suspens le temps de la crise sanitaire. Cette situation pourrait-elle avoir des effets durables ?
Eh bien, les majors du streaming font tout pour attirer et retenir le chaland en proposant des contenus originaux, films ou séries à ne voir que chez eux, avec des moyens immenses à la mesure d'Apple, Google ou Amazon pour instaurer un nouveau modèle économique en dehors des salles de cinéma. Mais Laurent Créton n'y croit pas, il est professeur à Paris 3, spécialiste de l'économie du cinéma.
Ce n'est pas l'intérêt des plateformes et des majors de voir les salles de cinéma mal en point. Elles ont intérêt à tous les marchés, elles n'ont pas intérêt à en perdre un, surtout pas ce premier qui en fait joue un rôle très important dans la création de valeur symbolique du film, parce qu'on se rend compte que dans les plateformes, si vous présentez des films de cinéma mais qui ne sont pas sortis en salle ou très peu ou très mal, finalement ils sont très peu demandés. Ça crée de la promotion en fait autour du film et ensuite il peut exister dans les mémoires. Et en existant dans les mémoires, au moment où le film il apparaît sur un catalogue de streaming, finalement il a une valeur d'attractivité qu'il n'aurait pas en l'absence d'une sortie en salle.
Et en attendant, les plateformes continuent de s'institutionnaliser. En France, la ministre de la Culture a annoncé le mois dernier qu'elle serait désormais obligée de contribuer à la création culturelle française, comme les chaînes de télévision. Pour Netflix, cela représente un financement de 150 à 200 millions d'euros chaque année.
2020, l'année du streaming. Un dossier signé Maxime Tellier, à lire aussi sur franceculture.fr. Et une nouvelle année, c'est aussi le moment des bonnes résolutions. La Chine, longtemps poubelle du monde, n'importera plus de déchets. Le principal pays importateur de déchets au monde quitte définitivement le marché ce 1er janvier 2021. Un geste bénéfique pour l'environnement chinois, mais qui aura forcément des répercussions internationales, Véronique Roberotte.
C'est la toute dernière étape d'un processus engagé il y a 3 ans. Début 2018, Pékin avait décidé de bannir l'importation de plastique et d'autres catégories de déchets qu'elle recyclait jusqu'à. Alors, la Chine, premier marché des déchets recyclables, était passée de 600 000 tonnes de plastique importées par mois en 2016 à 30 000 tonnes en 2018. Un tremblement de terre dans le circuit du recyclage mondial, 40 ans que la Chine récupérait et transformait les matières premières expédiées sur son sol. Aujourd'hui, le développement de la Chine, qui a considérablement augmenté sa propre production de déchets, fait que le pays n'a plus besoin d'en importer. Pékin met aussi en avant sa volonté de protéger son environnement en limitant sur son sol l'arrivée de matériaux polluants. Ces dernières années, les déchets plastiques des pays développés ont commencé à être massivement redirigés vers plusieurs pays d'Asie du Sud-Est qui croulent à leur tour sous des déchets pas toujours de bonne qualité. Des poubelles non triées arrivent en Malaisie, au Vietnam ou en Thaïlande, des pays devenus des destinations de choix pour les industriels qui ont déménagé leur activité de Chine. Un peu partout dans le sud-est asiatique, les usines de retraitement de plastique ont poussé comme des champignons, émettant des fumées toxiques polluantes. Un phénomène qui pousse à leur tour les pays destinataires des poubelles des pays riches à interdire l'importation de certaines catégories de déchets, ceux toujours plus nombreux qui arrivent des États-Unis, du Japon et d'Europe.
Triste destin, Soumaïla Cissé, l'ancien chef de l'opposition malienne, est décédé la semaine dernière à Paris des suites du Covid-19. Libéré au mois d'octobre aux côtés de l'ex-otage française Sophie Petronin après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes, sa dépouille a été rapatriée hier au Mali. Ce matin avait lieu ses funérailles. Reportage Kaoru Magasa.
Devant le cercueil de Soumaïla Cissé, les discours d'hommage se succèdent aux pupitres installés dans la cour du Palais de la Culture de Bamako. L'État qui participe à l'organisation de la cérémonie est représenté par le Premier ministre Mokhtar Ouane. De nombreux membres du gouvernement sont également présents, mais c'est aussi et surtout la classe politique dans son ensemble qui assiste aux obsèques, comme une nation reconnaissante au parcours d'un homme qui aura marqué la vie politique de son pays. Thiebi Ledramé, directeur de campagne de Soumaïla Cissé lors de l'élection présidentielle de 2018, était hier à l'aéroport pour accueillir la dépouille.
Son action publique depuis quelques dizaines d'années, c'est dans l'intérêt du Mali. Vous savez, sa mort est un tremblement de terre politique dans ce pays.
Soumaïla Cissé était pressenti pour se présenter à la prochaine élection présidentielle qui devrait se tenir au premier semestre de 2022, c'est-à-dire au terme de la période de transition que traverse le pays après le coup d'État d'août dernier. Arrivé trois fois second à la compétition pour la magistrature suprême, il partait cette fois-ci favori. Depuis quatre ans, Sokona Alignane, toute vêtue de blanc et masque noir sur le visage, milite dans son parti.
Soumaïla Cissé aujourd'hui remporte avec lui notre espoir pour un Mali émergent. Aujourd'hui se brise notre rêve pour un Mali épanoui.
Après une prière mortuaire réunissant une foule immense, Soumaïla Cissé a été enterré au cimetière du quartier de Sogonico de Bamako.
La météo, le temps demain, neigeux de la Franche-Comté au sud-est, des orages de grêle et grésil en Provence, Alpes, Côte d'Azur et en Corse. Les températures iront de moins 5 pour les minimales à 11 degrés pour les maximales. 18